Jusqu'à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous, nous sommes le 13 juillet 2017 et ben oui, un beau grand sourire sur ma face aujourd'hui et pourquoi pas, parce que c'est beaucoup de bonheur de venir vous retrouver tous les jours sur Canal M entre midi et 1h. Je m'appelle Clotilde Say, je vous l'ai déjà dit me semble, mais je me souviens plus, et je reçois beaucoup d'invités encore une fois aujourd'hui, notamment Rémi Couture, vice-président d'Aviron La Chine, invité des personnes non-voyantes d'associations diverses à s'initier à l'aviron le samedi 15 juillet prochain, il fallait qu'on en parle. Également la chroniqueuse Sarah Rouleau, responsable des communications et marketing et événements spéciaux à Inca Québec. Le sujet du jour, comment aider un proche vivant avec une limitation visuelle. Alors elle va nous offrir des trucs et des conseils pour aider une personne malvoyante et son entourage. Également à l'émission aujourd'hui, Caroline Béliveau. Caroline Béliveau, elle est adjointe marketing et conseillère à la qualité chez Tourisme Centre du Québec. Alors on va faire connaissance un petit peu plus de cette région et surtout on va découvrir avec elle quels sont les lieux, quels sont tous ces lieux, tous ces endroits de divertissement culturel qui sont accessibles à la population qui vit notamment en fauteuil roulant. Et puis on finira avec une chronique, celle de Franck Bouchard. Franck Bouchard qui arrive d'un petit voyage en Ontario et qui a observé comment ça se passe là-bas. Alors voici la grande question. Est-ce que c'est mieux en Ontario, au niveau de l'accessibilité, qu'au Québec? Réponse à 12h45. Et on commence par quelques nouvelles, bien sûr. Des chercheurs qui veulent améliorer le pronostic de l'autisme. D'après un texte de Mathieu Perrault dans la presse, découvrir des biomarqueurs permettant de mieux établir les perspectives de développement d'un enfant qui reçoit un diagnostic d'autisme et qui détermine le traitement le plus approprié pour aider le petit patient. Tel est le pari d'une équipe internationale de chercheurs dirigée à partir de Londres, à laquelle participe un groupe montréalais. Le groupe du docteur Motron va travailler dur sur des biomarqueurs cognitifs, plus particulièrement sur les habiletés hors du commun de certains autistes ainsi que sur la taille de la tête. Ils vont ainsi regarder les biomarqueurs en fonction de l'âge. On peut avoir un biomarqueur à un âge et un biomarqueur inverse à un autre âge. Les autistes ne se transforment pas comme la population générale, de dire M. Motron, Laurent, psychiatre de l'Université de Montréal. Alors dans combien de temps des applications cliniques seront-elles possibles? Je suis optimiste. Je pense qu'on peut avoir des biomarqueurs d'ici 5 ans, dit une psychologue londonienne. Après, il faudra 5 années de plus pour reproduire les résultats. Elle s'appelle Eva Loth, elle travaille sur l'autisme depuis près de 20 ans. J'ai fait mon doctorat sur la théorie du déficit de l'esprit, l'idée que les autistes ne comprennent pas que les autres personnes n'ont pas les mêmes pensées ou émotions. J'ai décidé d'avoir une perspective pratique sur la question et je suis allée dans une école spécialisée dans ce domaine où j'ai été frappée de voir la diversité des enfants, la complexité de l'autisme. Repenser l'aménagement des rues pour sauver des vies, c'est dans le devoir. Des dizaines de piétons perdent la vie chaque année au Québec après avoir été heurtés par un véhicule. Si la vitesse et le nombre de voitures sur les routes sont largement en cause, la signalisation plus ou moins claire des intersections contribue aussi grandement au problème. Alors que Montréal limitera davantage la vitesse de circulation des véhicules sur son territoire d'ici 2018, des experts et acteurs du milieu estiment qu'il faudrait aussi s'attaquer à l'aménagement des rues pour véritablement réduire le nombre de collisions entre piétons et automobiles. Aux yeux de la co-porte-parole de Piétons Québec, Jeanne Robin, encourager chaque individu à améliorer sa conduite, c'est insuffisant. Il faut plutôt penser collectivement et revoir l'aménagement des villes, notamment aux intersections où se déroule la majorité des accidents. Lors de la création des grandes artères, personne ne prévoyait la cohabitation d'autant de véhicules motorisés avec des piétons, ajoute Madame Robin. Et les chercheurs dans le milieu lui donnent raison. Les résultats sont sans équivoque. L'aménagement spatial revêt une grande importance dans les comportements de traversée des individus. Le piéton a besoin de savoir quand traverser et s'il a le temps de le faire. Les feux à décompte, est-ce une solution? Les décomptes peuvent fournir une réponse au problème, croit Sébastien Laure. Ce serait souhaitable d'avoir des décomptes pour les endroits stratégiques les plus utilisés, mais il faudrait qu'ils durent assez longtemps. Il donne l'exemple de Singapour, qui utilise une technologie pour le moins innovante. Les décomptes s'ajustent selon celui qui appuie sur le bouton pour traverser. Imaginez, les personnes passent devant un lecteur de carte à puce qui reconnaît l'âge de la personne selon son abonnement. Ainsi, on donne plus de temps à une personne plus âgée avec une mobilité réduite. Sans contredire son collègue, Mme Cloutier fait toutefois remarquer que selon les résultats préliminaires d'une étude qu'elle a menée récemment à Toronto, davantage de collisions entre piétons âgés et véhicules ont été constatées après l'installation de feux avec décompte. Est-ce qu'ils comprennent les feux? Est-ce qu'ils surestiment leur vitesse? Il faut encore étudier tout ça pour trouver la meilleure solution. Le Fonds des mille pattes reçoit l'aide du tigre géant. Si Abigail Walker, atteinte de polychondrite, une maladie rhumatologique très rare, prend du mieux, le Fonds des mille pattes créé par sa famille continue de supporter d'autres enfants souffrant de maladies rares. Abigail et son père, Steve Walker, étaient tout sourire mardi lorsque le magasin Le Tigre Géant de la rue du Conseil à Sherbrooke leur a remis un don de 1 500 $ pour la cause. « J'ai été touchée par cette cause parce que je suis une coureuse moi-même et qu'en plus, ça touche les enfants malades. Nous voulions donner au suivant pour faire la différence dans la vie des gens aidés », explique la propriétaire Natacha Dubé, qui a contribué à une activité de financement pour la cause d'Abby et les mille pattes. Steve Walker était vraiment très très touché par cette aide financière. Alors il va y avoir une course, ce sera la 5e édition de la course Abby et les mille pattes qui aura lieu le 30 septembre prochain, avec des parcours de 1, 3, 5 et 10 km qui seront offerts dans les sentiers du Mont Bellevue et plus de 30 000 $ qui ont été amassés depuis 2013. C'est un parcours symbolique qui monte et qui descend. Comme dans la vie, explique Steve Walker. Les côtes à monter dans le parcours signifient quand ça va mal et que les enfants sont en douleur, alors que les descentes représentent la maladie qui est endormie. Et lorsque ça va mieux, indique Abigail Walker. On va essayer d'avoir tout ce beau monde à l'émission Aime l'été pour qu'il nous parle un petit peu plus de cette fondation, de cet organisme, les mille pattes, et de la course Abby et les mille pattes qui aura lieu, je vous le rappelle, le 30 septembre prochain. Et puis enfin, déficience cognitive, une application pour retrouver la mémoire. Une application d'exercice cérébral pour renforcer la mémoire. Eh bien, s'il est peu probable que cette application pourra rétablir complètement les capacités cognitives chez les patients atteints d'Alzheimer ou de déclin cognitif avancé, cette application fait ici ses preuves en cas de déficience cognitive légère dans l'amélioration de la mémoire à court terme. L'application en question, développée par des chercheurs de Cambridge, s'appelle Game Show et elle est présentée dans l'International Journal of Neuropsychopharmacology. Cette altération cognitive légère amnésique contre laquelle Game Show fait des miracles ou presque permet d'éliminer ou de réduire ce tout premier signe qui annonce mais pas toujours, un risque de démence. Alors l'application Game Show permet d'améliorer la performance cognitive. Ainsi, contre le groupe de contrôle, à la fin des 4 semaines de pratique, les joueurs font beaucoup moins d'erreurs, enchaînent beaucoup mieux plusieurs étapes sans faire de faute et localisent correctement de nombreux modèles à chaque étape du jeu. Tout est possible lorsqu'on est non-voyant, ou presque. Je vais m'adresser maintenant à Rémi Couture. Rémi Couture, il est vice-président d'Aviron La Chine et il voudrait vous inviter à une journée d'aviron. Et il invite entre autres, et surtout d'ailleurs, il va nous le dire, des personnes non-voyantes qui font partie d'associations diverses. Bonjour Monsieur Couture.
Bonjour, bonjour.
Quelle bonne idée cette affaire-là!
Oui, c'est ça, ça me semble une évidence, et puis je suis...
Une évidence, c'est fantastique.
Oui, parce que en aviron, la vision, c'est marginal. On rame toujours de dos, et on ne voit pas où on va. Donc, c'est le sport par excellence, et puis c'est ça, ça m'étonne que ça ne soit pas plus développé que ça.
Ah oui.
Et mon objectif ici, là, c'est d'inciter le plus de personnes aveugles et avec des problèmes de vision à s'initier à ce sport-là.
Mais quand vous dites, bon, effectivement, je me souviens bien sur les images qu'on a pu voir à la télévision, on fait dos à l'endroit où on va, je veux dire à la direction où on va, mais si on rame mal, on dévie. Est-ce qu'à
Oui,
ce moment-là,
mais...
c'est la personne qui accompagne, qui dit attention?
Donc, c'est ça, il y a différents types de bateaux. Les
Oui.
plus gros bateaux ont toujours un barreur ou une barreuse.
Oui.
Et c'est cette personne-là qui est responsable de diriger le bateau.
On ne peut pas
Au niveau du
imaginer un
client.
aviron unique avec une personne seule.
En paralympique, c'est faisable. En
Ah
bassin,
oui.
y a des compétitions où les personnes sont en skiff, sont seules.
Mmh.
Mais au Club d'Aviron La Chine, on n'est pas en bassin, on est sur le lac Saint-Louis.
OK.
Donc, j'ai toujours imaginé qu'on ait soit des équipages de 8, de 4 ou
Oui.
en double. Il suffit qu'il y ait une personne qui voit comme il faut
Oui.
pour partir, mais le reste de l'équipage, on peut ramer les yeux fermés. D'ailleurs, c'est un exercice que les athlètes de pointe sont appelés par leur entraîneur à fermer
Affaire.
leurs yeux. Oui, exactement, à
Wow.
ramer les yeux fermés pour prendre le rythme et sentir les mouvements du bateau. Donc ça, on encourage les gens à faire ça de temps en temps.
Oui. Alors, on a l'impression que ce sont les bras qui travaillent le plus. Pas
Non, c'est en
forcément, hein?
fait, c'est
Hein?
les jambes.
C'est
C'est
les
les
jambes,
jambes,
hein?
parce que, exactement. Donc, on rame sur des sièges à roulettes.
Oui.
Et la puissance est donnée par les jambes.
Ah oui.
Le haut du corps est sollicité, mais c'est juste pour donner un peu d'accélération au coup de rame. Donc, mais le gros de l'effort vient des jambes.
Vient des jambes. Ben voyez-vous, j'aurais jamais. Ben, je me rendais bien compte que les jambes étaient importantes, mais j'étais convaincue que c'était la puissance des bras, moi, et des épaules qui faisaient le travail.
Les autres sports de rame, peut-être le haut du corps est plus
Oui.
sollicité en kayak, en
Oui,
canot,
oui, oui,
mais
oui.
en aviron, c'est des petites machines très, très, très efficaces. Donc, on utilise le plus gros groupe musculaire pour fournir le plus d'énergie.
Alors, c'est un sport complet, finalement, parce que ça fait travailler, c'est un exercice de cardio, hein,
Oui,
beaucoup,
exactement.
parce
Oui,
que là, je
oui.
pense que le cœur, il doit pomper pas mal.
Ça peut être
Sur...
brutal,
Ça
oui. Quand
peut
on
être...
fait de la compétition,
Oui.
ça peut être brutal, oui.
Mais quand on fait ça pour s'amuser un samedi ou un dimanche, comme ça, sur le lac, j'imagine qu'on y va beaucoup plus doucement. Il doit y avoir quelque
Exactement.
chose de zen là-dedans, hein, puis Aram,
Exactement.
hein?
Oui, vous avez raison, parce que bon, on est sur l'eau, donc
Oui.
les Montréalais, ben, on peut profiter du fleuve et du lac Saint-Louis. C'est très calme parce que bon, on n'a pas tendance comme on est un peu à l'effort, on n'a pas tendance à parler.
Oui.
Donc, on entend le bruit des rames, le bruit de l'eau.
Waouh.
Et puis,
Oui.
c'est peu bruyant, alors.
Alors, si on voulait convaincre Monsieur Couture des personnes non-voyantes qui nous écoutent en ce moment à profiter de cette activité-là et qui pourraient nous dire, oh non, moi, ça me fait trop peur, oh non, non, j'ai peur, j'ai peur.
Alors,
Qu'est-ce qu'elles peuvent
d'abord,
redouter réellement?
il n'y a pas vraiment grand-chose, parce que déjà, des bateaux de 8, de 4, ou même des doubles, c'est beaucoup plus stable.
Oui.
On commence avec des gens expérimentés qui, eux, vont tenir l'équilibre. Le chavirage est extrêmement rare.
OK.
Donc,
OK.
en skiff, quand on est seul, ça arrive plus souvent. Mais déjà, en double, c'est vraiment magique. Le bateau est beaucoup plus stable. Donc, on y va avec quelqu'un qui est un peu plus expérimenté. Et tant que les rames sont à l'eau et tant qu'on a les mains sur les rames, le bateau est stable.
D'accord.
Après ça, ben, il n'y a pas vraiment de risque. C'est un sport d'équipe, mais ce n'est pas un sport de contact. En plus, c'est un sport qui est tout en douceur. Comme je disais, on est assis sur un siège à roulettes. Il n'y a pas de choc pour les articulations.
Non.
Il n'y a pas de torsion non plus. Contrairement à bien des sports, on se foule pas les chevilles, on se foule pas
Non.
on se fait pas mal aux genoux. Il y a
Ouais,
vraiment
je
peu de
comprends.
risques physiques. Et
Ça
c'est
prend un
idéal pour
bon.
se mettre en forme.
Oui, c'est ça, hein. Et puis ça prend peut-être un bon bas du dos, non? Il me semble qu'au niveau des lombaires, ça doit tirer un peu quand même, non?
Oui,
Oui,
quand on en fait en haute
oui. Oui,
intensité,
d'accord.
ça sollicite beaucoup le bas du dos. Mais
Bon.
avant de se rendre là, on peut se mettre en forme et puis on va avoir du plaisir aussi en ramant à un rythme plus récréatif.
Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette journée d'initiation, Monsieur Couture?
Alors, c'est une session d'initiation. On a invité les gens à 10 heures au
Oui.
club. Alors, on
On va
va
rappeler où tout de
présenter.
suite, s'il vous plaît.
C'est au 2801 boulevard Saint-Joseph à la Chine.
D'accord.
Et donc, on va présenter le bateau et les rames. Donc, oui. On a déjà reçu des groupes de non-voyants. On leur explique toutes les pièces du bateau, comment on manipule les rames.
Oui.
Les gens vont pouvoir toucher et puis manipuler à leur guise. Ensuite, on va mettre le bateau à l'eau et on va pratiquer un peu les mouvements parce que bon, il faut manipuler la rame, il faut la faire pivoter parce qu'on est bas sur l'eau. Hein, fait qu'on,
c'est ça.
Il faut être capable de faire pivoter la rame et expliquer qu'il faut bien la mettre à 90 degrés, donc au carré, pour être capable de propulser le bateau. Donc ça devrait prendre à peu près 45 minutes.
D'accord.
Sortir le bateau, présenter l'équipement. Apprendre le mouvement des rames. Et puis après, on va faire une petite sortie dans la baie devant le club où on va faire ramer des gens. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Mais oui, en plus, je veux dire, au canal La Chine, à cet endroit-là, c'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est tellement paisible,
oui,
c'est tellement...
C'est un beau site. Sur le canal, est vraiment dans la baie.
Mais dans la baie, il y a des bateaux à moteur. Comment ça se passe quand il y a des bateaux à moteur qui passent puis qui font des vagues quand on est dans l'aviron?
On s'abrasse un peu, mais c'est pas...
Non.
Ils sont dans la baie, ils doivent aller lentement.
Ah, c'est vrai qu'ils vont lentement.
À 10 heures, il y a moins de trafic.
D'accord.
Les bateaux à moteur sortent plus vers midi.
D'accord. Et la sortie va durer combien de temps?
C'est à peu près 2 heures.
À peu près 2 heures.
L'activité d'initiation dure 2 heures.
Bon. Et vous avez beaucoup d'inscrits déjà?
On a encore de la place. On peut avoir...
C'est vrai?
Oui.
Oh, alors allez-y donc, ceux qui nous écoutaient en ce moment... Hein, ce serait tellement formidable. Moi, je dois dire que je rêve un peu de faire de l'aviron, mais on ne peut pas tout faire. Ça se passe samedi, là, qui vient, le 15 juillet, donc, à partir de 10 heures du matin. C'est une activité qui n'est sûrement pas gratuite, hein, M. Couture.
Oui, cette fois-ci, c'est gratuit.
C'est gratuit, en plus.
C'est gratuit. Et si les gens sont intéressés, bon, ben, il y a toutes les frais d'adhésion et tout.
D'accord, bien sûr.
Mais on fait une activité de promotion, donc
c'est fantastique.
Les gens peuvent venir, les familles peuvent venir aussi, parce que bon, on nous disait, si on est quatre, une famille de quatre peut prendre un bateau et puis partir. Donc,
Mais oui.
On nous disait souvent que ça peut être une activité intéressante pour des familles qui ont un enfant malvoyant.
OK.
Le frère, la sœur peuvent venir, ils peuvent en faire à deux, et puis papa, maman aussi peuvent se joindre.
Ben c'est ça, et puis je me disais même, si un jeune non-voyant voulait se joindre à une équipe voyant, je veux dire un jeune déjà physiquement en forme, là, tu sais, pour faire est-ce que ça vous semble possible?
Oui. D'ailleurs, on en a déjà un.
Vous en avez déjà un? Bon.
C'est nouveau de cette année.
Ah, bon, ben écoutez.
Il a commencé en juillet et puis il s'intègre avec le reste de l'équipage. Et puis,
Eh bien, écoutez, vraiment, je suis très contente, M. Couture, qu'on ait pu parler de cette activité, rappelons-le, qui est gratuite, qui se déroule samedi le 15 juillet. Présentez-vous vers 9h30 par là. Je pense qu'il vaut mieux arriver un petit peu plus tôt. Sur Saint-Joseph, ça, c'est au coin de quelle avenue sur la Chine? C'est au coin de la quoi, vous savez?
La 25e
avenue. La 25e avenue, d'accord. Alors, rendez-vous là, c'est gratuit. Allez vous éclater à faire de l'aviron. Ça va vraiment être formidable. Merci d'avoir initié ça, M. Couture.
Oui, j'espère qu'on va avoir des membres avec ça. Et puis, on s'en reparlera peut-être
d'accord. En
fin de l'été pour voir où on en est rendu.
D'accord. Merci, M. Couture. Bonne journée.
Merci,
au revoir.
Merci, au revoir.
Manda caru quando flora lá na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo. Vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 De manhã cedo já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada.
o pai leva o doutor. A filha adoentada não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado e diz logo surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 Et tout de suite, je me tourne, façon de parler, parce qu'elle est au téléphone, mais elle est là, vers Sarah Rouleau, responsable des communications, marketing, événements spéciaux, Inca Québec. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Chronique très importante aujourd'hui, justement, on vient de parler de l'aviron pour les non-voyants, hein, ce monsieur qui veut inviter, qui est en train d'inviter des non-voyants à faire de l'aviron samedi prochain. Et on reste avec les non-voyants, avec vous, Sarah. Mm-hmm. Un sujet important, que faire ou quoi faire, comment faire quand on veut aider une personne qui vit avec une perte de vision dans le sens, quels sont les gestes que nous devrions avoir, porter, oui, et ceux qu'on ne devrait pas poser?
Oui, mais en fait, la première chose, là, ça serait vraiment de nous assurer que la personne qu'on veut aider, elle a besoin d'aide. Donc souvent, on veut être généreux, mais premier conseil, en fait, la première chose à faire, c'est vraiment de demander à la personne, puis voir aussi ce qu'elle souhaite, ce dont elle a besoin. On se rappelle aussi que 90% des personnes aveugles ont un résidu visuel. Donc ça va, tu sais, la vision de chaque personne est terriblement différente et c'est la mieux placée pour nous dire ce qui va l'aider, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle voit aussi. Fait qu'hésitez pas à lui demander aussi ce qu'elle voit, ce qu'elle voit pas. Puis faut pas rien prendre pour acquis. T'sais, il y a des personnes, ça va changer aussi là, par exemple lorsque la noirceur tombe. Donc première chose, c'est vraiment de s'assurer que ce qu'on fait ou en tout cas le geste qu'on veut poser est utile et demandé.
Oui.
Ensuite, sinon il y a plusieurs conseils là, que je peux vous donner pour permettre à la personne d'être autonome.
On vous écoute. On est tout oui.
Oui. Donc, c'est ça. Souvent, les gens, ils vont se déplacer là, de façon assez autonome dans leur transport, dans leur bureau et tout. Fait, ce que nous, on peut faire pour les aider à continuer comme ça, là, d'être autonome, s'assurer que les endroits sont sécuritaires. Donc, rien laisser traîner, que ce soit sur le trottoir, que ce soit au bureau ou à la maison. Pas laisser des choses traîner. Avertir lorsqu'il y a des changements. T'sais, on change les meubles dans la maison ou dans le bureau, il faut le dire.
Mais oui.
Si sur la rue, on remarque que la personne, ça peut être un inconnu, mais on remarque qu'elle semble se diriger vers une rue qui est fermée ou un trottoir barré. Quand il y a des changements comme ça, là, on peut être très, très utile. Ensuite, replacer les chaises sous les tables, ça va permettre d'empêcher de s'enfarger dans les chaises. Laisser les portes soit totalement ouvertes, soit totalement fermées. Question de sécurité, c'est plus facile. Aussi, des fois, on ne sait pas là, au restaurant ou si on invite quelqu'un à manger, comment faire, quoi lui dire. Le plus facile, c'est d'utiliser un peu l'assiette comme une espèce d'horloge et de lui dire, par exemple, ton steak est devant toi ou est à 6 heures, les carottes sont à 3 heures. Donc ça va aider à savoir où sont les choses parce que le reste de la table, ils vont savoir. Ils savent sont les ustensiles, le
bien
verre
sûr.
Normalement, c'est tout le temps à la même place. Mais une indication de qu'est-ce qui est dans l'assiette et ça peut toujours être très apprécié. On peut toujours aussi, surtout quand c'est des endroits là, nouveaux, guider la personne, si
bien
elle en
sûr.
A besoin, bien entendu.
Oui, c'est ça. Parce que il faut pas leur faire peur non plus. Il faut pas oublier que la personne ne vous voit pas venir, quoi.
Oui.
Surtout si elle est totalement non-voyante. C'est un détail, mais alors tout d'un coup, si vous lui touchez l'épaule en lui disant « Avez-vous besoin d'aide? » il faut se mettre 2 secondes à sa place. Là,
Oui,
donc, dans ces cas-là, il faut...
tranquillement.
Voilà.
Oui, Puis justement, tu sais,
il faut prévenir.
Quand on connaît la personne, nommer son nom, quand on s'adresse à elle, mm-hmm. puis quand on la connaît pas, justement, toucher, mais tranquillement pour dire est-ce que je peux vous aider, puis pas, surtout pas la prendre là, par le bras.
Oui, non, c'est ça. Exactement, mais par contre, tendre son bras. Je pense que les c'est ça. Et préciser, bon, ben voilà, j'ai le coude à côté. Et parce qu'ils aiment bien nous suivre au niveau du coude.
Hein, oui, exactement. Donc, c'est vraiment d'approcher. On peut même leur dire, comme vous dites, comme ben, je vous offre mon coude. Ils savent comment sont habitués, puis ils vont vous suivre. Et là, quand c'est la première fois qu'on guide, on n'a pas besoin d'être des experts. Là. Bien entendu, on va le dire quand on traverse des portes, quand il y a des escaliers. On continue avec le coude, mais on arrête. Ouais, on dit qu'il y a des escaliers, les obstacles. C'est bon aussi de décrire ce qu'il y a dans l'environnement. Ça peut aider la personne. Mm-hmm. Encore là, selon, on peut lui demander ce qu'elle préfère. Est-ce que vous voulez que je vous décrive tout ce que je vois ou juste certains détails? Et pour ce qui est des portes, c'est bien aussi de lui dire vers quel côté, dans quel sens la porte ouvre et que la personne puisse elle-même ouvrir la porte.
Exactement.
Quand on arrive à une chaise, ce serait de mettre la main de la personne sur le dossier. Comme ça, elle va pouvoir concevoir elle-même, « Ah, OK, c'est placé comme ça, je vais pouvoir m'asseoir. » Fait que c'est des petits trucs.
Oui.
Pour plus de détails, nous, on a des vidéos là, sur notre YouTube. On a un manuel aussi qui s'appelle « Pas à pas » sur notre site Internet. Mais déjà, avec ces conseils-là, ça, au moins, on est plus équipés là, pour guider une personne aveugle.
Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi un truc, à un moment donné, que vous nous spécifiez, c'est pas besoin de parler fort à une personne qui est aveugle.
Non,
c'est pas là que ça se situe le problème, du tout, du tout.
Oui, souvent les personnes confondent sourd et aveugle, je crois. C'est vrai qu'il y a certaines personnes âgées qui vont nous demander de parler plus fort, mais en général, c'est un réflexe à abandonner. Là. Pas besoin de parler plus fort. Pas besoin non plus là, de tirer le bras de la personne.
Oui, ou alors de parler comme ça pour être sûr qu'on se fasse entendre.
Oui,
non, ça marche pas du tout.
Ça n'a pas de sens. Aussi, une chose qu'il faut pas faire, là, c'est de pas quitter sans le dire à la personne.
Ah oui,
parce
bien sûr.
Qu'on veut pas qu'elle continue de parler toute seule. Il faut l'avertir. Comme on dit quand on arrive, « Hey, salut, je suis là. » Ben quand on part, « Je vais te laisser, là, maintenant, je m'en vais.
Oui. »
Aussi, une erreur que les gens font souvent, puis souvent, c'est pas voulu, mais s'adresser directement à la personne, ne pas s'adresser à son guide. Ou encore, quand nous, on la guide, ne pas servir d'intermédiaire. Laisser la personne s'exprimer elle-même, puis c'est à elle que s'adressent les questions. T'sais. Donc ça revient souvent.
C'est bien l'intelligence que vous dites, Sarah. Écoutez, il nous reste plus qu'une trentaine de secondes, mais je voudrais que les gens sachent que INCA offre des groupes d'entraide hein, pour les proches aidants notamment. Oui. Alors j'imagine que si on va sur votre site, on peut trouver toutes les informations pour cela.
Oui, effectivement, sur inca.ca/Québec, nos groupes de proches aidants, entre autres, vont donner des conseils plus spécifiques là, pour les proches aidants.
Formidable.
On les soutient aussi là, dans leur adaptation là, à leur nouveau rôle.
Sarah Rouleau d'INCA, merci mille fois, encore une fois. Tout ça a été très éclairant. Merci, au revoir.
Merci, bonne
journée. Aime l'été. Comme on aime l'été à Canal M, on adore aussi aller se promener, faire des petits tours de machines, par exemple en voiture, aller à droite et à gauche, visiter des musées, faire un tour dans des parcs. Et puis, on a décidé qu'on irait visiter des régions à droite et à gauche pour savoir, entre autres, ce qu'il faut y faire, ce qu'il faut y voir et quels sont les monuments, les lieux qui sont accessibles. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, j'ai Caroline Béliveau. Bonjour. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors Caroline, vous êtes-vous de la région qu'on appelle le centre du Québec? Alors vous êtes adjointe marketing et conseillère à la qualité chez Tourisme Centre du Québec.
C'est en plein ça.
Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ça commence où et ça finit où ça, le centre du Québec, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Donc, le centre du Québec, dans le fond, on se trouve à être situé entre Montréal et Québec, sur la rive sud du fleuve.
Mm-hmm.
Et dans le fond, ça comprend les municipalités principales de Drummondville, Victoriaville, Plessisville, Nicolet et Bécancourt. Fait qu'on est à peu près à 1h30, une heure de Montréal, puis environ, c'est ça, dépendamment où on se trouve dans la région, une heure et demie de Montréal et une heure de Québec.
Alors, quand on dit que la région centre du Québec est accessible, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Parfait. Dans la région centre du Québec, dans le fond, quand on dit que c'est une région accessible, c'est une région qui présente une offre diversifiée d'infrastructures touristiques et de la vie courante qui se trouvent à être accessibles ou partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite ou vivant avec une incapacité. Donc, ça peut être autant une personne vraiment qui vit avec un handicap ou un aîné, par exemple, une femme enceinte. Ça peut être également une famille qui doit se déplacer avec une poussette.
Puis oui, bien sûr.
Des sacs multiples. C'est vraiment... on offre dans la région Centre du Québec plusieurs entreprises, que ce soit des restaurants, de l'hébergement, des attraits touristiques et d'autres commerces. Donc, qui sont...
totalement accessibles.
C'est exactement. Oui.
Alors, est-ce que vous avez un espèce de top 10 ou de...
Oui, ben, en fait, la région se démarque particulièrement, je dirais, notamment, entre autres, avec la municipalité de Victoriaville, la ville de Victoriaville.
Ah, ils sont fantastiques pour la communauté. Ça. Oui, c'est vrai.
Effectivement. Donc, c'est vraiment ça a nouvellement été annoncé, en fait, au printemps, que c'est la première ville québécoise certifiée destination pour tous.
Oui.
Donc, ça veut dire, en gros, que la municipalité, elle a obtenu la certification de 3 étoiles pour ses infrastructures et son offre touristique accessible. Et ça veut dire qu'à Victoriaville, c'est possible de visiter, manger, magasiner, faire des activités de la vie quotidienne dans un environnement sans obstacle et aussi avec une culture d'accueil d'excellence. Donc, un service à la clientèle qui est vraiment adapté aux personnes avec vivant avec une incapacité. Donc, il y a plusieurs commerces dans la ville de Victoriaville. En gros, il y a eu à peu près plus d'une centaine d'entreprises et de commerces qui ont été évalués et formés pour justement offrir de meilleurs services aux personnes handicapées et aux aînés. Entre autres, on a notamment le parc du réservoir Baudet et il y a une belle piste cyclable également qui en fait le tour. Mm-hmm. Donc, il y a des infrastructures adaptées à cet endroit-là. Donc, on peut faire du plein air, on peut rouler à vélo également, par exemple à la Vélogare du Grand Tronc et sur la piste du parc linéaire des Bois-Francs, dans le secteur de la ville de Victoriaville.
Est-ce qu'on accepte les fauteuils roulants sur ces pistes-là?
Oui.
D'accord.
Donc, c'est autant pour les piétons. Donc, les véhicules, les fauteuils sont acceptés, les quadriporteurs.
D'accord.
Il y a également de la location de vélos adaptés. Il y a 3 types différents de vélos adaptés pour pouvoir rouler là, sur la piste. On a des hébergements comme l'hôtel Le Victorin, le musée de Sir Wilfrid Laurier également, qui fait partie des entreprises qui mettent des efforts, en fait, pour rehausser leur niveau d'accessibilité. Puis on a tout le centre-ville de Victoriaville également qui a eu une cure de rajeunissement et d'accessibilité par le fait même. Donc, tous les trottoirs de la ville ont été abaissés au niveau de la rue. Donc, on n'a plus à franchir d'obstacles de trottoir.
Wow.
C'est très accessible. Et il y a plusieurs bornes de chargement également pour les fauteuils
électriques,
les fauteuils roulants, les fauteuils électriques et les quadriporteurs. Fait que pour la ville de Victoriaville, c'est vraiment une région qui se distingue puis qui veut toujours aller plus loin.
C'est vraiment, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de le dire déjà à cette émission ou même au Paractualité, c'est vraiment une ville qui nous prouve qu'on peut faire des choses, on peut avancer, on peut évoluer, on peut développer des projets pour la communauté des personnes handicapées. Parce que souvent, c'est trop compliqué, ça coûte des sous, on aurait besoin d'aide, ça va nous enlever de la clientèle, ceci, cela. Mais la preuve que non. C'est ça. La preuve que non.
Effectivement, puis c'est des efforts concertés également là, de la part de plusieurs organisations, notamment l'Office de tourisme local, Tourisme Victoriaville et sa région, qui fait partie prenante là, de ce projet-là avec la ville et qui roule également. Là, bien
oui,
entendu.
Bien sûr. Madame Béliveau, avant qu'on se sépare, si une personne nous demande ici, OK, qu'est-ce que je peux aller visiter, moi, dans le centre du Québec, dans cette région accessible, qu'est-ce qu'on lui répond?
Bien, en fait, on a une belle offre culturelle pour les gens qui veulent soit quelque chose, des entreprises culturelles, des attraits touristiques ou un circuit plus éducatif. On a entre autres le musée des Abénakis qui est à Odanak, qui est un bel endroit là, à découvrir, puis qui offre quand même, là, qui est personnellement accessible.
Okay.
Mais c'est possible, cette année, ils ont une nouvelle activité numérique au musée qui est avec une tablette. Donc, on se promène autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du musée. Et puis, c'est une tablette interactive, puis ça nous permet de vivre, faire partie prenante là, d'une visite. Donc, c'est facilitant aussi là, pour certaines personnes. C'est
d'accord.
Très intéressant à découvrir. Donc, la mémoire d'un peuple, que ça s'appelle.
Oui.
On a également le Musée des religions du monde, qui est un endroit, un très beau musée avec une belle programmation d'activités qui est accessible en partie là aux personnes à mobilité réduite.
Uh-huh.
Et cet été, on propose l'exposition « Amène-nous la coupe ». Donc, qui fait un parallèle un peu avec notre amour, notre passion.
La coupe Stanley! Oui, bien sûr!
Et pourquoi le hockey est une religion au Québec. Donc, c'est un peu le parallèle. Donc, c'est un peu humoristique également. Il y a également là, le centre culturel de Drummondville.
De Drummondville, okay.
Oui, c'est ça. Donc, qui propose la pièce Sylvia. Donc, des projets de la Meute. Donc, c'est un très beau projet. Là, le Centre des arts de Drummondville là, qui propose une belle pièce de théâtre cet été.
D'accord.
Puis, on a plusieurs activités de plein air, sites de plein air, en fait.
Oui.
Notamment les passerelles de Lens-du-Port et les passerelles écologiques de
Lens-du-Port. Les passerelles de Lens-du-Port, c'est-à-dire que ce sont des passerelles qui sont accessibles?
Oui,
aux personnes handicapées?
Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est sur trottoir de bois. Donc, c'est possible d'aller visiter, là, se promener là, au parc écologique de Lens-du-Port à Nicolet.
Dites donc, est-ce que c'est sur les passerelles qui se balancent puis qui bougent, là, les machins? Là, comment on appelle ça?
Ah, ben là, par exemple, je ne saurais pas vous dire.
Ah bon? Parce que alors moi, je serais incapable de monter là-dessus. C'est pour
non,
ça, justement.
C'est vraiment des... un trottoir de bois là, qui permet d'avoir...
Mais ça m'intéresse. D'accord. Alors, vous dites que ça s'appelle comment, c'est?
Parc écologique de Lens-du-Port.
Le parc écologique de Lens-du-Port. Eh bien, je vais...
À Nicolet.
Eh bien, je vais aller visiter ça. Madame Béliveau, le temps file. Je vous remercie beaucoup de nous avoir indiqué où nous déplacer si on voulait, pendant ces vacances, se rendre dans votre belle région. Pour les gens qui auraient manqué un petit peu tout ça, ils peuvent aller voir un site Internet, bien sûr. Quel est-il?
Oui, donc sur notre site Internet, tourismecentreduquebec.com.
D'accord.
Donc, il y a toute une offre d'activités à faire dans la région.
Okay.
Et il y a également là, les entreprises qui font partie de la route accessible qui sont bien identifiées.
Parfait.
Donc, vous pouvez avoir de l'information à cet effet-là.
Ben, merci beaucoup, Mme Béliveau. On va vous souhaiter une belle journée, un bel été dans votre région et
merci.
Au plaisir de vous reparler.
Ben, je vous remercie beaucoup. Bon été et bonnes vacances à tout le monde.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Non le, un island choves, me y bon bon, voy a venir a yes. Lo pegué el punjacho, lo pegué el sangumón, lo pegué el sambubón, lo pegué el sonjo. Pa bon bon un bijevo, voy a es un bijeo, pa un concheque. Injevo chon, injon obla. Telecon in condobla, para puabin lo way. John, who gave a bull, he chung wabi so, who be bell,
Somuto arae, agaba pe niwe. Awana mo masona, aga hoyawe hi. Ambo mole, dio 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 dio.
Tona,
tona bichome, igi kel.
Tona lina,
onwo mabarwe to balunke.
Tona,
tona bilengme, igi mange.
Tona lina.
Nanole, tiwe kunde kunde ke won kiki sumbolio. Bege li mzachon, no bege masangumon, no bege masangumon, no bege sonhon. Maligan dile maleng di menu nule, kene di nyanga na le nyanga na di menu nule bene.
Kinje wanyu,
toba sol sol ves. Soul, soul, bon, para un mene way. Pichonu, gabumbul, pichungo, biso, uipel. Somuto arae, agabape, niwe.
Egnanae, hikel, zipunda.
Abomolem, diu, 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 diu.
Tona,
tona, bitome. Bon moment, bad way. I do want to wait.
Tona.
I don't know, we lend me. Big girl.
Tona lina.
Tona. Then go all with my bonus. See.
Tona.
Conjang it con me.
Tona lina.
Somebody came to me. I don't know.
Tona.
Tona, we show me. Tona lina.
Tona lina.
Jeva ibe ubi sal tonae uga wupulio e atu atu e tobi tembe ubi tembe me oya be malonga mo ubi lebi son be kai oya me atu e to to tonae.
Alors, je vais me tourner vers un chroniqueur dont c'est la première chronique à cette émission Aime l'été, c'est Franck Bouchard. Bonjour Franck.
Bonjour.
Franck, vous allez peut-être pouvoir répondre à une ou plusieurs questions que je me pose depuis déjà pas mal de temps, que j'ai même déjà posées à l'émission Par Actualité à une sous-ministre des Affaires sociales en Ontario. Et finalement, elle n'avait pas... On reviendra après sur la question en question. Mais pour l'instant, je voudrais que vous nous précisiez quelque chose. Vous êtes allé en voyage en Ontario.
Effectivement, petit voyage en famille.
En famille.
Pour des vacances.
Pour les vacances. Et puis, comme vous étiez à la recherche de sujets pour Canal M, pour l'émission Aime l'été, vous vous êtes dit, tiens... Si j'ouvrais bien mes yeux et mes oreilles et que je vois comment ça se passe, c'est ça?
C'est un peu ça, effectivement, qui est arrivé. C'est-à-dire que des formations professionnelles, intérêts, en tout cas, en me promenant à Toronto, je suis allé précisément à Toronto, en me promenant, je me suis mis un peu à m'attarder, à regarder, effectivement, bon, les transports en commun, les commerces, les lieux touristiques. Est-ce quelle sorte d'efforts on fait pour rendre ça accessible? Est-ce qu'effectivement, les personnes handicapées peuvent utiliser les transports en commun, entrer dans les restaurants, les commerces, etc.? Sans faire une analyse exhaustive de la chose, mais je me suis un petit peu intéressé tant qu'être en vacances. Là, je me suis intéressé à la question. Quand je suis revenu de Toronto, préparer une chronique pour une première chronique pour l'émission aujourd'hui, je me suis dit, ah ben tiens, je pourrais peut-être aborder ce sujet-là, justement, la situation de l'accessibilité en Ontario, en comparaison peut-être avec ce qui se passe au Québec, et peut-être plus particulièrement sous l'angle de la loi ontarienne, parce que les lois, le Québec et l'Ontario ont des lois qui concernent les personnes handicapées. Est-ce que, du côté de l'Ontario, comment ça fonctionne? Est-ce que l'herbe est plus verte chez nos voisins?
C'était ça la question!
Donc, je me suis un peu donc, attardé un peu aussi dans les derniers mois à faire un peu d'analyse aussi des lois dans un tout autre contexte, mais j'ai regardé les lois au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, les lois qui concernent les personnes handicapées. Donc, j'avais un peu abordé la question quand même assez largement. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'en parler justement ces différences-là qui existent. Puis comme je disais, est-ce que c'est mieux chez nos voisins ou à Québec, c'est quand même pas si mal? Alors, je me suis un peu prêté cet exercice-là.
Alors, quels sont les constats, premièrement, que vous avez faits en Ontario?
Alors, premier constat qu'on peut faire par rapport à la loi ontarienne, c'est que la loi est quand même un peu différente de ce qu'on trouve au Québec. C'est une loi qui vise l'accessibilité. Donc, c'est une loi qui vise à éliminer les obstacles, réduire les obstacles par rapport à l'accès à des services, par rapport à l'accès à l'emploi, par rapport à l'accès au transport en commun, des choses comme ça. Donc, c'est une loi un peu différente dans le sens où la loi du Québec n'aborde pas ça de la même façon, tout cet aspect de rendre les choses accessibles. Mm-hmm. Donc, c'est une différence assez importante, en tout cas un paradigme un peu important, assez différent par rapport à ce qui se passe au Québec. L'autre élément quand même, je pense, majeur, la loi du Québec donne des obligations, mais plus par rapport à l'accès des services, par exemple, mais plus ceux qui sont assujettis à ça, c'est plus les organismes publics, parapublics, les municipalités d'une grosseur assez importante, des choses comme ça. Donc, on touche plus le secteur public. Ouais. Alors qu'en Ontario, oui, on va toucher ce secteur-là, mais on va aussi toucher, c'est ça peut-être la différence que je trouve la plus importante, le secteur privé. Un commerce a aussi des obligations d'accessibilité. Un restaurant, une salle de cinéma. Tout ce qui est le du côté privé a aussi des obligations de rendre ces services accessibles. Donc, la loi a créé des normes d'accessibilité pour le service à la clientèle, pour le transport en commun, pour l'emploi, pour différents comme ça. Ça vise pas seulement le public, les organisations publiques, mais les organisations privées. Donc, je me promenais à Toronto, par exemple, je voyais que des Tim Hortons avaient mis en place des portes accessibles, que plusieurs restaurants envoyaient des petites rampes sur les trottoirs. Donc, on voyait qu'il y avait des efforts vraiment visibles faits pour l'accessibilité, non seulement dans les lieux publics, mais aussi dans les lieux privés. Donc, en tout cas, je n'ai pas fait une recherche exhaustive en me promenant à Toronto, clair, évidemment, mais j'ai vu quand même, de visu, j'ai vu, on voit les effets de la loi. Sur le côté privé. Alors qu'ici, au Québec, c'est peut-être plus... Il n'y a pas de cette obligation-là qui est par rapport au privé. Donc, c'est peut-être plus complexe, des fois, de rendre des choses accessibles.
Ici, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est à vouloir inciter les gens à le faire. Effectivement. En disant, voilà, on va vous aider. Alors, s'il faut construire quelque chose, on va vous aider financièrement, etc. Mais on ne dit pas aux gens, prenez votre responsabilité et faites quelque chose.
Effectivement, la loi ontarienne, les normes d'accessibilité... amène des obligations légales de conformité, de plan d'action, de déposer ça, de démontrer qu'on fait des efforts pour rendre les choses accessibles.
Ça veut dire que sinon, ils se font taper sur les doigts?
Sinon, ils peuvent effectivement se faire taper sur les doigts. Il y a des processus de plainte. Les personnes peuvent porter plainte. Vous êtes assujetti à la loi, vous ne faites pas les efforts qu'il faut. On peut vous donner des amendes, etc. Les amendes sont plus corsées aussi, même en Ontario, à la limite. Donc, ça s'appelle jusque-là. Donc, on voit qu'il y a quand même un effort plus grand, en tout cas en Ontario, qui est fait pour... ouvrir non seulement les milieux publics, mais les milieux publics au sens organisation publique là, du gouvernement, mais tout ce qui est privé également. Donc ça, c'est fondamental. Ça, c'est une différence assez importante de mon point de vue. L'autre élément important qu'on ne retrouve pas dans la loi québécoise, mais qu'on trouve en Ontario, c'est qu'on s'est donné aussi un échéancier. D'ici 2025, l'Ontario, son objectif, c'est d'éliminer ces obstacles-là, de se rendre accessible partout, dans toutes les sphères, à tout le moins en grande partie. C'est un objectif ambitieux. Ça fait à peu près 10-12 ans que la loi est en place. Elle est adoptée en 2005. Je dirais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Quand on regarde les rapports faits occasionnellement pour voir où en est rendue la loi, l'application de cette loi-là, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il y a une volonté gouvernementale qui a été réitérée, d'ailleurs, dans l'année dernière là-dessus pour dire 2025, c'est pas juste un chiffre. On veut vraiment arriver à cette chose-là. Alors que dans la loi québécoise, il n'y a pas vraiment d'éléments comme ça. On incite les organisations à mettre en place des plans d'action, des politiques, etc. Mais sans dire, dans 10 ans, on veut que vous soyez conforme, on veut que vous ayez atteint à ce stade-là. On ne retrouve pas ça au Québec.
Pourquoi est-ce qu'on est frileux, d'après vous, comme ça, ici?
Excellente question, je ne sais pas. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va devoir peut-être être moins frileux. Parce que si on regarde ailleurs, au Canada, depuis que la loi a été adoptée en Ontario en 2005, le Manitoba s'est grandement inspiré de cette loi-là, en a voté une en 2013. La Nouvelle-Écosse vient tout récemment, en avril 2017, d'en voter une. Et ces lois-là sont vraiment calquées sur les lois ontariennes, la philosophie, donner des objectifs, normes d'accessibilité, un échéancier dans le temps, vont arriver des choses comme ça. Et même du côté du Canada, une loi canadienne qui est en cours de rédaction, aussi, ça inspire beaucoup de ce qui se passe en Ontario et dans les autres provinces canadiennes pour dire, bon, on va se donner aussi des objectifs d'accessibilité, des normes. Ça va être les organisations qui vont être assujetties, c'est plus des organisations qui relèvent du fédéral. Mm-hmm. Mais on voit qu'il y a un mouvement là, en place au Canada anglais, pour aller vers cette approche-là. Donc, je me dis que le Québec devrait, en tout cas, de mon point de vue, peut-être s'en inspirer. Et si on revoit la loi d'ici, la loi aura bientôt une quinzaine d'années, en 2019-2020, peut-être ce serait le temps de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Je ne dis pas que la loi du Québec n'a pas produit des effets intéressants, elle a produit, mais si on veut aller plus loin, peut-être regarder ce qui se passe ailleurs et s'en inspirer.
Franck Bouchard, d'autres différences ou
c'est surtout ça. Surtout l'aspect de viser le privé que je trouve intéressant.
Je voudrais peut-être que vous nous rappeliez, parce que tantôt vous avez ouvert en disant, oh, peut-être par intérêt professionnel, et je voudrais peut-être, parce que c'est vrai que nous, on n'a jamais fait connaissance, alors que vous me rappeliez et que vous rappeliez à ceux qui nous écoutent, il fait quoi Franck Bouchard dans la vie pour être aussi passionné par les lois comme ça?
J'ai travaillé pendant très longtemps dans le milieu personnes handicapées, je travaillais du côté de l'emploi, le défunt CAMO personnes handicapées,
oui,
peut-être
bien
que
sûr.
Vous Non, ça va peut-être dire quelque chose. Mais, et maintenant, je travaille du côté de l'habitation, développement de l'habitation sociale. Et toute la question de l'accessibilité pour les personnes handicapées de logement est aussi importante dans mon travail. Maintenant, je le vois, j'ai rencontré des groupes récemment qui sont intéressés à dire on veut habiter, mais ça prend des logements adaptés. Mm-hmm. Ça prend aussi des services qui vont venir avec ça pour nous aider dans nos activités. Par rapport à la vie quotidienne aussi, on voit qu'il y a un besoin et j'ai bien l'intention dans mon nouvel emploi de favoriser le plus possible aussi cette
action. Si vous le faites avec autant d'éloquence que celle que vous venez d'avoir pour nous parler de la différence entre la loi ontarienne et la loi québécoise, j'ai bien confiance, moi, que ça va fonctionner. Merci beaucoup, Franck Bouchard. C'était un plaisir de faire votre connaissance.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Au revoir.
Un giorno bionda, un giorno bruna, non devi bere che ti fa male. Gina, lo sai la vita è un'altalena, un giorno scende, un giorno sale. Se vuoi scappare dalla noia esistenziale prova l'acqua minerale. Se vuoi fuggire dalla norma più normale puoi provarci col caffè. Gina, analcolico e gazzosa, no, non è facile, tu sei fatta così. Un giorno bianca, un giorno nera. Se vuoi scappare dalla noia esistenziale, prova l'acqua minerale. Se vuoi fuggire dalla norma più normale, puoi provarci col caffè. Gina, analcolico e gazzosa, vedrai la vita è un'altra cosa. Se la prendi così, se la prendi così, se la prendi così.
En rafale maintenant, on va parler de bénévolat. Vous savez que le bénévolat, Dieu sait si dans les organismes communautaires et dans les organismes d'entraide envers les personnes âgées et la communauté des personnes handicapées, Dieu sait si on a besoin de bénévoles toujours. Eh bien, parlons de bénévolat parce que la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal lance une nouvelle activité de bénévolat durant tout l'été. L'organisme communautaire montréalais propose une nouvelle activité de bénévolat dédiée aux familles. La SSVP, appelons-la comme ça, a décidé d'inviter petits et grands à partager leur engagement au sein de la communauté. Un bon moment garanti et un moyen d'apprendre de nouvelles valeurs aux jeunes le partage et l'entraide. Le bénévolat familial, c'est quoi? Eh bien, durant tout l'été, une demi-journée pendant laquelle petits et grands s'impliquent auprès de la SSVP. Un moyen de partager un engagement dans la communauté avec nos jeunes. Vous voulez vous inscrire? Vous voulez inscrire vos jeunes? C'est facile. Il suffit de faire parvenir un courriel à bénévole@ssvp-mtl.org. Je vous le redonne, bénévole, bien sûr, pas d'accent, @ssvp-mtl.org. L'activité est proposée aux enfants à partir de 10 ans. La présence d'un adulte accompagnateur est requise pour deux enfants. Une activité idéale pour occuper les enfants et leur faire découvrir le bénévolat. L'organisme Le Camp Soleil de Mélissa, qui œuvre auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et de déficience physique depuis près de 25 ans, organise des journées de collecte de canettes et bouteilles consignées le 13 juillet et le 24 août, entre 8h30 et 15h30, au 24 rue York à Huntingdon. Les fonds amassés serviront d'aide aux familles pour le coût des sorties. Je vous rappelle que c'est l'organisme Le Camp Soleil de Mélissa qui propose cela. Dimanche, le 16 juillet, de midi à 16h, au parc René Lévesque, près du canal Lachine. Soucieuse de favoriser les échanges, Mémo Québec vous convie à son activité d'essai de vélo et randonnée en collaboration avec Mario Williams du groupe Medicus. On parle d'activité de vélo à main. Alors, cyclistes à main ou à pied, famille et amis sont tous les bienvenus. C'est une activité qui va commencer à 12h30. Je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous lundi. Demain, c'est François Brodeur. Salut!